Voilà, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a découvert un nodule à ma thyroïde. Donc le risque, c'était que ce nodule pouvait influencer le fonctionnement de la thyroïde. Donc tous les 2 mois, j'ai droit à une prise de sang pour voir si ça fonctionne bien ou pas. Et malheureusement, en 2010, les prises de sang étaient de pire en pire. Donc les taux étaient vraiment pas bons et je devenais hypothyroïdienne à chaque fois. Donc, mais j'étais persuadée que j'allais guérir et j'étais là, je fais non, je suis sûre que je vais avoir une prise de sang qui sera bonne à un moment donné et tout. Et donc en février, j'ai fait ma prise de sang et là les taux sont venus tout à fait normaux. Aussi bien en TSH que T4, bien, voilà. Oui, gloire à Dieu, oui. Et puis il y a aussi une victoire au niveau de mon travail parce qu'on avait des objectifs à faire en 2010. Et qui était un petit peu difficile, vu en ce moment au niveau des assurances, c'est un peu compliqué. Donc c'était moi qui avais le moins de primes. Normalement, j'avais droit à 85 euros. Donc j'ai eu mon entretien il y a 2 semaines et mon patron m'a dit « Je ne peux pas vous donner 85 euros, ce n'est pas possible, vu le travail que vous donnez, comment vous impliquez dans votre travail. » Donc je me suis dit « Bon, il va me donner 200 euros et puis voilà quoi. » Et il me donne 500 euros. Donc, gloire à Dieu. Voilà. Parce qu'avec mon patron, je suis un petit peu des fois énervée, mais je me dis, il faut toujours respecter l'autorité, et même si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne dis rien, et je fais quand même, quoi. Donc, on se soumet aux autorités, voilà, on dit béni. Voilà. Voilà. Ah oui, et Gabrielle aussi, tu avais prié pour elle, pour son lipome, et il diminue toutes les semaines, il diminue de plus en plus, donc on croit vraiment qu'elle sera complètement guérie bientôt. Voilà. Voilà.
Bonjour les frères et sœurs, ça va bien ce matin? Oh, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose au château. Ah non, c'est là. Non, c'est pas là, j'ai oublié. Dommage. Bien. Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Je vous lis dans la Bible Tob, la dernière qui vient de sortir, qui a 300 pages de plus que les vôtres. Non, mais... Matthieu 6, 9, 10. Merci. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Amen. Très beau, hein, comme version. Fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. J'aime beaucoup. Maintenant, j'ai poussé la curiosité d'aller voir dans d'autres versions. Alors, il y a la Chouraki qui est très bien aussi. La version Chouraki nous dit « Notre Père des ciels, ton nom se consacre, ton royaume vient, ton vouloir se fait, comme au ciel, sur la terre aussi. » C'est très beau aussi, hein? Très beau. Mais quand même, c'est très différent. Donc, ça fait réfléchir. Non, on dit toujours la même chose, on répète toujours la même chose. Et puis, des fois, on ne réfléchit pas tellement ce que ça veut dire. Le Notre Père, c'est une prière, mais ces deux premiers versets, dans ces deux premiers versets, on ne demande rien à Dieu, on ne demande rien. Que fait alors celui qui est en train de prier ces deux premiers versets du Notre Père? Premièrement, il s'adresse à Dieu et il ne sanctifie pas le nom de Dieu, comme c'est écrit dans nos versions. Comment on peut sanctifier le nom de Dieu? Comment est-ce que le nom du Seigneur aurait-il besoin d'être sanctifié? N'est-il pas déjà saint, plus que saint, plus que saint, plus que saint? Comment est-ce qu'on peut le sanctifier encore? Non, ce mot n'est pas tout à fait correct. En fait, ce texte, quand on dit, quand on prie cette prière, on affirme dans un acte de foi que le nom de l'Éternel est consacré. C'est ça qu'on affirme. C'est une affirmation de foi. Il est consacré dans le présent par ceux qui ont la révélation du nom du Père. Jésus est venu pour révéler le nom du Père. Et deuxièmement, il est consacré prophétiquement parce que son règne vient. Et quand son règne sera venu, tous le reconnaîtront comme souverain absolu. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même déjà souverain absolu. Son règne existe, il est réel. On le voit dans le texte, hein, ton règne est. Il est réel, mais il n'est pas connu par les incrédules. Il est mis en contestation par les démons, par le diable, par les incrédules. Mais vient le jour où ça sera terminé, cette contestation. Ça sera reconnu. Tous genoux fléchiront devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand il nous enseigne notre Père, dit « Ton règne vient, ton vouloir se fait. » C'est-à-dire quelque chose pour le futur, ton règne vient, mais ton vouloir se fait quand même. Vous voyez, il se fait, il est fait. Il n'y a rien qui arrive à moins que Dieu le veuille. Personne ne peut, ni vous, ni moi, ni les démons, ni le diable, personne ne peut faire autre chose à part ce que Dieu veut. Son royaume vient, premièrement, en ceux qui ont la révélation du nom du Père, parce que celui qui consacre le nom de Dieu reconnaît l'identité de celui qui le porte. C'est ce que nous dit la Chouraki, hein, et cette version là aussi, que nous devons connaître l'identité de celui qui porte ce nom. Porter un nom, par exemple, si je dis Simone Ruiz, vous ne pensez pas à Jean-Paul II. Hein, quand je dis Simone Ruiz, vous ne voyez pas Jean-Paul II. Si je dis Tour Eiffel, vous voyez à Tour Eiffel. Si je dis Simone Ruiz, vous voyez Simone Ruiz. À moins que vous ne connaissiez pas Simone Ruiz, évidemment, si vous ne connaissez pas. Vous voyez que c'est important le nom. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors les siens, ceux qui sont nés de nouveau, ils apprennent de plus en plus que Dieu règne sur tout. Ils ne l'apprennent pas tout de suite. Au début, ils disent que Dieu est tout-puissant. Au début, ils disent que Dieu est le maître absolu, qu'il est le roi des rois et tout, mais ils doivent apprendre que Dieu règne sur tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait tout de suite. En apprenant cette grande vérité, le règne de Dieu vient de plus en plus parfait dans ceux qui sont nés de nouveau. J'explique. Quand vous entendez l'évangile prêché pour la première fois, peut-être c'était moi qui vous prêchais, parlons de Raphaël. Quand Raphaël m'a prêché l'évangile, le gitan, quand il m'a prêché l'évangile pour la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un appel. Il a dit, Dieu place devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Avait-il tort? Non, il avait raison. C'est ce qu'il faut faire. Et il l'a fait très bien. Et moi, j'ai cru que je choisissais la vie. Moi, j'ai cru que je me convertissais, que je venais vers Dieu, que je choisissais. Mais en fait, un, c'est Dieu qui m'avait choisi, ça c'est ce que la Bible dit, mais je l'apprends après, je l'ai appris après. Deux, c'est lui qui m'a cherché, c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'ai cherché en premier, c'est lui. C'est lui qui m'a donné la repentance. S'il ne me donne pas la repentance, je ne peux pas me repentir, n'est-ce pas écrit aussi? Et c'est lui qui me convainc de péché, de justice, de jugement. En fait, tout vient de lui. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Son règne était déjà sur ma vie. Jésus nous dit que s'il n'attire pas, personne ne peut venir à lui. Comment est-ce que j'aurais pu venir à lui s'il ne m'avait pas attiré? Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver les siens. Il n'est pas venu sauver les autres. Il est venu chercher et sauver les siens. Alors voilà, ton nom, mon nom était déjà inscrit dans le livre de vie, déjà avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce que j'ai choisi ce 1er juin 1968? Mais il fallait me présenter le message de cette manière-là. Parce que ici-bas, je me crois tout seul dans ma sphère. Et petit à petit, j'ai changé parce que j'ai appris et j'ai changé d'idée. Je me suis aperçu que non, je ne suis pas tout seul. En fait, je suis une partie de Dieu qui est là sur la terre et je fais sa volonté, même autrefois quand j'étais dans le monde, afin que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous voyez, mes frères et sœurs, tout ça c'est... Mais on l'apprend, ça. Il y en a qui ne le savent pas encore. Peut-être vous qui écoutez Internet ou qui regardez la télé, vous ne savez peut-être pas encore ces choses. Et vous êtes là, bon. Et vous vous tournez vers votre pasteur disant, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. L'évangéliste, il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et toi, tu crois choisir. Voilà, mais c'est bien, c'est vrai, tu as choisi. Mais après ça, avec l'enseignement de la parole de Dieu, de la Bible, si tu prends vraiment au sérieux la Bible, tu apprends que tu n'as pas choisi, que c'est Dieu qui t'a choisi et que tu as fait ce que Dieu voulait. Voilà. C'est tout. Mais c'est très important. Dieu agit toujours comme ça pour tout. Regardez-le par exemple, écoutez-le plutôt. Écoutez-le parler à Caïn. Dieu ne savait-il pas qu'il allait tuer Abel? Bien sûr qu'il le savait. Et pourquoi il lui dit « domine sur le mal, l'air ». Par exemple, Dieu ne savait-il pas que Pharaon allait résister? Bien sûr qu'il le savait. Il lui dit, il envoie Moïse pour lui dire « laisse partir mon peuple ». Moïse dit à Pharaon, « Pharaon, laisse partir mon peuple. Let my people go. » Vous avez vu, hein, je fais des progrès. Hein. Eh bien, Pharaon dit non. Pourquoi? Parce que c'est écrit que par derrière, Dieu, il endurcissait le cœur de Pharaon. Vous voyez comment il est? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ça paraît bizarre. On en apprend ces choses, on apprend. Dieu appelle tout le monde, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu par son esprit qui fait que notre savoir augmente et qu'on connaît mieux qui il est, comment il agit, pourquoi il agit. On doit apprendre, on apprend. Et là, Jésus dit, ton royaume vient, ton vouloir se fait. C'est clair, j'aime beaucoup. Et il dit, ton royaume vient, ton vouloir se fait comme au ciel, sur la terre aussi. Et c'est bon que tu apprennes ça, mon frère, ma sœur, parce que savoir ça, ça te place dans le cercle des amis intimes de Jésus à qui il dit tout. Il te considère comme assez mûr pour pouvoir comprendre. Alors il te le dit, il t'explique, il te parle, il t'apprend. Tu entres dans le savoir divin, tu ne restes plus un enfant, tu commences à mûrir, parce que quand on commence à apprendre des choses comme ça, on commence à mûrir. Ici-bas sur terre, mes frères et sœurs, il y a un mariage, c'est-à-dire une union entre le ciel et la terre. Et ça, ça se passe en toi. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que sur la terre, Christ vit en vous, et qu'au ciel, c'est vous qui êtes en Christ. Je vous ai aussi dit que vous devez avoir conscience de cela, sans quoi vous restez des enfants. La volonté de Dieu, elle est faite au ciel, elle est aussi faite sur la terre. Mais nous devons en avoir conscience, on doit l'apprendre. Et quand on sait ça, eh bien, ça nous met dans la paix. C'est ça, avoir la foi qui donne le repos, qui nous fait entrer dans le repos, dans le Shabbat de Dieu. Mais pour croire ici-bas, il faut d'abord apprendre ici-bas. Vous dites, Michel, tu te répètes. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Vous savez, quand vous allez sortir de votre corps et que vous allez être libéré des limitations de ce système créé, quand vous serez en présence de Dieu, quand vous serez hors espace, hors temps, eh bien, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte subitement d'une chose inouïe. C'est que vous avez toujours tout su. Le savoir, il est en vous, dans les lieux célestes. Et, ici-bas, vous avez tout pleinement en lui, qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir cette communion avec lui. Pour pouvoir se manifester d'une façon adulte, en tant qu'enfant mûr de Dieu, qui peut commencer à s'occuper des affaires du Père. Il faut que nous ayons conscience de cette autre sphère. Hier, on parlait de sphère avec les frères et sœurs au salon. Les incrédules, ceux qui refusent de croire ce qui est révélé, ils n'ont pas de protection contre le mal, ils n'ont pas de résistance. Les gens de ce monde, en fait, ils ont abdiqué leur être. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On dit ça, hein. Ils ont abdiqué leur être. C'est comme un roi qui dépose sa couronne. Et en fait, ils ne trouvent maintenant leur repos que dans celui qui les mène à leur perte. Et ils ne trouvent leur repos que dans... ils fuient dans l'alcool, ils fuient dans la drogue, ils fuient dans les distractions, ils fuient dans toutes sortes de choses. Ils trouvent leur repos là-dedans, dans celui qui cause leur propre perte. Eux, ils ont perdu le sens de la réalité. Voilà pourquoi Jésus dit qu'on ne doit pas se comporter comme les gens de ce monde. Ce n'est pas simplement ne pas fumer. Mais nous, frères et sœurs, nous les bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de découvrir le sens de la vie. On est en train de découvrir le sens, la réalité, les choses réelles. Un, vous êtes des élus. Dieu vous a appelés. Vous avez été convaincus de péché, de justice, de jugement. Maintenant, vous êtes régénérés. Vous êtes une nouvelle création. Maintenant, vous êtes nés de nouveau. Mais, comme tous les enfants qui viennent de naître, eh bien, vous commencez par ramper par terre. Hein, on a vu Timothy, mon petit-fils, c'est-à-dire on parle tout le temps, bien sûr. Ben, il a commencé par ramper par terre. Et puis après, il a commencé à marcher, mais à quatre pattes. Et puis après, il s'est levé. Et maintenant, comme beaucoup de frères et sœurs ont vu dans le parc hier, il fait pipi debout. C'est joli, les enfants. À quatre pattes, mais un jour, il s'est levé. Mais pour pouvoir se lever, il faut que la terre soit bien solide sous nos pieds. Vous êtes d'accord ? Hein, on n'apprend pas à un enfant à marcher sur un matelas à eau. On leur apprend à marcher sur la terre bien solide. Pour se lever, vous devez avoir la terre sous vos pieds et vous devez avoir le ciel en-dessus de votre tête, c'est-à-dire quand même un espace, sinon vous cognez au plafond, hein, un espace au-dessus de votre tête. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est très riche. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Votre terre, mes frères et sœurs, c'est l'enseignement que vous avez reçu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui vous permet de vous lever, d'arrêter de vous traîner par terre, d'arrêter de ramper dans la vie, mais de vous tenir debout. Il faut vous lever sur la parole de Dieu, sur l'enseignement que vous avez reçu. Et votre ciel, c'est la compréhension de ce que vous avez au sujet de cet enseignement. Je répète, l'enseignement, votre terre, c'est l'enseignement que vous avez reçu, et votre ciel, c'est la compréhension que vous en avez. Mes frères et sœurs, c'est cette force qu'il y a entre le ciel et la terre, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est cette force-là qui doit vous unir, vous rendre solidaire. Vous avez vu, quand vous mettez deux aimants, il y a une force entre deux, on ne la voit pas, mais elle existe. Eh bien, il y a une force entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre l'enseignement et la compréhension qu'on en a. Si on ne comprend pas ce qui est enseigné, ça ne va pas. L'Église, elle doit devenir une forêt d'âmes, une forêt enracinée dans la terre de la sagesse, enracinée dans la terre de la sagesse, enracinée dans l'enseignement de Jésus-Christ, des apôtres, des prophètes, enracinée dans cette terre. Et cette forêt d'âmes, enracinée dans la terre, elle doit s'élancer à la conquête du ciel, à la conquête de la compréhension. L'enseignement, ça ne suffit pas. Tous les arbres de la forêt sont différents. Mais ils partagent tous la même terre, c'est-à-dire tous le même enseignement. Sinon, ils ne font pas partie de la forêt. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans la forêt. Par exemple, un arbre qui se trouve là, devant notre chapelle, ben, il n'est pas dans la forêt du château sanctuary. C'est un arbre, mais il est dans une autre terre. Et le même ciel, c'est-à-dire la même compréhension. Il doit y avoir le haut, il doit y avoir le bas. C'est en cela que l'Église de Jésus-Christ des saints que nous sommes en ces derniers jours, eh bien, doit faire naître, cette forêt doit faire naître une nouvelle façon d'être dans ce monde. On doit inspirer le monde à être d'une façon différente en tant que chrétien. Aujourd'hui, Luther a fait ça en son temps. Columba a fait ça en son temps. Irénée a fait ça en son temps. Paul a fait ça en son temps. Branham a fait ça en son temps. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes vivants. C'est nous. Est-ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie? Eh bien, ça ne se fera pas tout seul. Si tu veux obtenir quelque chose, tu dois réunir tous les éléments et les assembler. Quels éléments? Il y a ce qui est en haut, il y a ce qui est en bas, la terre sur laquelle tu es établi, l'enseignement sur lequel tu es établi, il y a le ciel, la compréhension que tu en as, et puis il y a tous les autres arbres de la forêt. Il y a tous ces autres arbres. C'est tout cela réuni qui permet à Jésus-Christ de s'incarner vraiment en toi et de se manifester vraiment en toi et par toi. C'est ce qui lui permet de vivre le genre de vie qu'il veut vivre, qu'il aime, c'est-à-dire une vie dédiée à Dieu, une vie dédiée aux autres. Les gens de ce monde, ils s'engagent dans tel et tel chemin, dans tel et tel parti, dans tel et tel truc, parce que ça leur correspond, parce que ça leur plaît, ou parce que quelque part ça leur parle, comme on dit. Hein? Mais dans l'Église de Jésus-Christ, on ne vient pas seulement pour mettre les pieds sous la table, pour prendre ce qu'on aime, ce qui nous correspond, ce qui nous parle, ce qui nous plaît. Non, non, non. On doit assembler en nous-mêmes tous les éléments. C'est le but de Jésus, réunir tout en lui-même. Et on doit travailler dans ce sens-là. On travaille dans ce sens-là, parce que ce n'est pas gagné d'avance. Avec Dieu, il ne s'agit pas que de recevoir, il ne s'agit pas que de prendre, il ne s'agit pas que de profiter, mais il s'agit de travailler, de donner, de œuvrer pour faire voir, pour faire apparaître ce qu'on veut. C'est seulement comme ça que ça marche, et ce n'est pas autrement. C'est comme ça que ça marche, et ce n'est pas autrement. C'est en agissant ainsi que le haut et le bas peuvent être unis. Et c'est en agissant ainsi que l'intérieur et l'extérieur peuvent être unis. Moi, je suis à l'intérieur de moi, mais je ne peux pas être uni avec ce qui est à l'extérieur de moi si ce qui est à l'extérieur de moi n'est pas enraciné dans la même terre et on a la même compréhension, le même ciel. Il y a des difficultés. Alors vous allez me dire, oui, mais on est différents, on a des maturités différentes. On va y venir. Les arbres peuvent être unis et doivent être unis dans une seule forêt pour s'élancer vers le même ciel. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit à deux-deux de débarrasser la table après manger? Pas seulement à deux-deux, mais à tous les enfants de la communauté. Je dis deux-deux, alors j'explique à ceux qui ne nous connaissent pas. Deux-deux, c'est une très très jolie et très très gentille fille dans notre communauté. Et quand elle était toute petite, je disais, comment tu t'appelles? Elle disait, deux-deux. Alors ça lui est resté, je ne me rappelle même plus son nom. C'est Noémie. Mais moi j'aime mieux deux-deux. Alors deux-deux, pourquoi est-ce qu'on lui apprend à débarrasser la table? C'est un exemple. Pour que elle soit unie à ce qui est fait. Vous comprenez? Pour qu'elle soit unie à ce qui est vécu. Et qu'elle ne soit pas seulement là pour profiter de ce qui est sur la table, et puis ensuite partir et s'en désintéresser complètement. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. C'est la même chose. On doit apprendre à être utile pas seulement voilà, apprendre, mais aussi à travailler, à être utile, pour pouvoir être uni à ce qui se fait, être uni à ce qui est vécu. Les premiers disciples à Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils apprenaient les mêmes choses, ils comprenaient les mêmes choses, et ils vivaient les mêmes choses, et leurs intentions étaient communes. C'est ça que ça veut dire. Jésus prie, « Père, je te prie pour qu'ils soient un. » Ça commence par la conscience, on doit être conscient. Prenez conscience vous-même que vous êtes un avec vous-même déjà, que l'unité entre vous et le ciel, entre ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, ça existe. Puis, prenez conscience que vous êtes un, c'est-à-dire pas seulement un arbre, pas un arbre, mais une forêt. Un groupe, une entité, avec sous vos pieds le fondement solide de la parole enseignée et au-dessus un ciel que vous partagez, une compréhension que vous partagez avec les autres arbres. Ça nous conduit plus loin que simplement « Vends-toi et suis-moi ». Mais c'était le début, « Vends-toi et suis-moi ». C'était ce qui est sur la terre. Après, il y a ce qui est au ciel, la raison, le pourquoi, et puis l'unité des deux choses. Alors, on doit pouvoir donner le témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes éveillés, œuvrant dans la pureté pour un même but, pour une même sagesse, celle de notre Seigneur Dieu. Alors, c'est vrai que tous les arbres ne se ressemblent pas dans une forêt. Vous avez des petits, vous avez des grands, vous avez toutes sortes d'arbres. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Vous avez qui sont très, très grands. Et ici même, dans notre communauté, il y a des gens qui me dépassent, qui sont plus grands, soit en intelligence, en talent ou en capacité. Mais tout ça, c'est bon. C'est bon si ça sert au bien commun de toute la forêt. Vous voyez ? Parce qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas, la surveillante est là pour l'expliquer. Dis que tu es là, dis que tu as compris, que tu n'as pas compris, mais de laisser croire que tu as compris. Si tu avais compris, compris, que tu n'avais pas compris, présent, nous ne serions pas pris, tu as compris, non, mais tant pis. Ça, c'était. Ce n'est pas obligé de retenir ça. C'était Camélia qui me disait toujours ça, qu'il fallait comprendre. Parce qu'avoir un enseignement commun, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut également avoir une compréhension commune. Car ça, c'est ce qui fait la force d'un peuple. Cette force qui est entre le haut et le bas, comme entre les deux aimants, cette force, cette puissance, elle est là. Mes frères et sœurs, alors que chacun, comme priait Alain tout à l'heure dans sa prière, que chacun fasse la mise au point, que chacun trouve la place qui lui revient dans la communauté pour renforcer l'œuvre d'ensemble. Hein? Notre maturité, elle n'est pas égale, c'est vrai, il y a des gens plus ou moins jeunes convertis, il y a des gens qui sont vieux convertis, puis qui sont encore des gamins, point de vue spirituel, mais c'est ce qui fait que chacun a sa pensée qui peut lui être propre, et on doit l'accepter, on le reconnaît, mais elle est bonne cette pensée si elle s'assemble avec le collectif. Si elle est contraire, ça ne va pas. Le pourquoi de l'appauvrissement spirituel. Pourquoi la faiblesse de l'Église aujourd'hui? C'est qu'ils ont tous la même terre, la même Bible, mais ils n'en ont pas tous la même compréhension. C'est ça. Ça crée des divisions, ça crée des tensions, ça crée des problèmes. La vraie Église de Jésus-Christ est un peuple dans lequel chacun pense à l'ensemble. À l'ensemble. Tout en étant responsable de sa propre individualité. Ah. Mais on pense d'abord à l'ensemble, d'abord au bien de la forêt, de l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ, on n'a pas tous à s'occuper de tout. Si vous me demandez de m'occuper de commencer à faire du béton ou des choses, ça va être la catastrophe, tout va s'écrouler, vous le savez, ça fait sourire les frères ici au milieu de nous. Je ne suis pas tellement bricoleur. Chacun s'occupe de faire ce qu'il sait faire. Chacun s'occupe de sa tâche dans l'œuvre d'ensemble. L'Église de Jésus-Christ, elle doit être une forêt vivante où les conflits sont réglés par l'intelligence, par la sagesse, justement, de l'enseignement, qui amène à une compréhension qui devient commune. Une forêt, il y a une diversité d'arbres, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier que nous sommes différents. mais nous devons être une forêt où l'enseignement et la compréhension sont au diapason. On doit faire des efforts dans ce sens-là. Même si la pensée peut avoir des niveaux différents, elle peut quand même s'unir. S'unir harmonieusement, dans une même compréhension, orientée vers un plan global. Quel plan ? Le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. Dieu est celui qui rachète. Ça, c'est le principal. Un seul cœur, une seule âme. Un seul cœur, une seule âme. Je voulais vous lire une prière, et puis c'est ça, je l'ai oublié sur mon bureau. C'est une prière juive qui est appelée le Kaddish. C'est une prière que tous les juifs connaissent. Notre sœur Simone, elle fait oui. Eh bien, c'est de cette prière-là que Jésus s'est inspiré pour enseigner ses disciples à prier. Et tous les juifs la connaissent par cœur, et quand ils ont entendu Jésus dire « Notre Père qui est aux cieux », tout ça, c'est le Kaddish en quelque sorte. Un peu différent, mais en tout cas, les deux premiers versets, c'est le Kaddish. Il dit « Que ton nom soit consacré ». Je ne peux pas vous lire, je l'ai oublié. Il est sur mon bureau. On le publiera sur Révélation Bible par écrit, comme ça sera simple. Mais quel est le nom? Que ton nom soit sanctifié ou que ton nom soit consacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce nom? La Bible nous dit, dans certaines versions, que Jésus l'a manifesté, ce nom. Dans Jean 17, 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Donc, il ne l'a pas manifesté aux autres. Il l'a manifesté à ceux que Dieu a tirés du monde pour les donner à Jésus-Christ. Que veut dire « J'ai manifesté ton nom » Eh bien, ce mot a plusieurs significations. Voilà trois. Ça veut dire « J'ai fait apparaître au grand jour le nom ». Deuxième, j'ai fait connaître, ça c'est ce que les Bibles en général disent, ou j'ai donné des signes de l'existence de ce nom. N'oubliez pas que le nom, c'est l'identité. J'ai fait connaître qui tu es, version Shura, qui. Pour que les siens comprennent le ciel, l'enseignement, la terre, de qui est Dieu, il a donné le nom. Quel nom ? Il l'a manifesté. Il n'a pas simplement dit, voilà, c'est ça le nom. Il l'a manifesté. C'est-à-dire, il a manifesté l'identité de Dieu. Et il a ajouté, pour que ceux qui ont l'enseignement et la compréhension, qui ont le ciel et la terre, puissent comprendre vraiment et manifester ça à leur tour. Il a ajouté, celui qui m'a vu a vu le Père. Rajouterais-je que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Comment peuvent-ils le comprendre autrement? Je ne sais pas. Simplement, ça leur est donné et d'une manière, et puis nous, ça nous est donné d'une autre, ou alors ça ne leur est pas donné, je ne sais pas. Moi, je sais qu'une chose, c'est que le nom que nous devons sanctifier, le seul nom du Dieu Sauveur que nous devons sanctifier, glorifier, consacrer, c'est le beau nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur de nous aider à bien emmagasiner ces choses, à bien saisir l'importance de ces choses, à ce que nous soyons bien enracinés, arbre, chaque arbre dans cet enseignement, et que chacun puisse trouver, puiser dans l'enseignement toutes les forces pour pouvoir monter, s'élancer jusqu'au ciel, jusqu'à la parfaite compréhension de ce que l'enseignement veut dire, afin que le ciel et la terre soient unis, que nous puissions manifester ton nom, manifester l'être que tu es qui vit maintenant en nous, manifester ce Dieu tout-puissant qui bénit, qui pardonne, qui guérit, qui console, qui reprend, qui exhorte en toute douceur, avec amour et qui se manifeste continuellement à ceux qui ont été tirés hors du monde par le Père. Merci Seigneur de nous aider à être vraiment ton image ici-bas sur cette terre, à être tel que tu es véritablement, pas que ça soit simplement une phrase écrite, mais que ça soit la réalité au travers de nos vies. Merci Jésus. Amen. Amen.